Les nuits de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Colique de plomb ou Nestor Burma court la poupée. Les lecteurs fidèles et attentifs des aventures de Nestor Burma savent qu'une même histoire peut servir deux fois qu'un roman peut être réécrit. Dans Les Maîtres du Mystère qui viennent, c'est à Colique de plomb que l'on a affaire. L'agence Fiat Lux semble en sommeil. On dort, on est souvent réveillé dans cette fiction. Et le détective qui met le mystère KO aurait tout intérêt, s'il veut manger à sa faim et réengager sa fidèle secrétaire et confidente Hélène, à se remettre en scène, à relancer l'agence Fiat Lux en question. Pour cela, le mieux est de collectionner les cadavres, de fréquenter les beaux quartiers et les lieux malfamés. Patience et méthode, ce sont les armes de Nestor Burma. Il en a d'autres, on appelle cela un pétard. Il dit « Eureka ». À la même époque, un commissaire du petit écran s'écriait « Bon Dieu, mais c'est bien sûr. Une formule vaut bien une autre. Colique de plomb ? Même chez les disciples d'Esculape, les coliques de plomb, ça ne pardonne pas. Première diffusion sur France 2 régionale, le 5 janvier 1960.
Les maîtres du mystère. Parmi les chefs-d'œuvre de la littérature policière, Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous ce soir Colique de plomb, roman de Léo Mallet, adapté pour le micro par Roger Richard, avec André Valmy dans le rôle de Nestor Burma, Bernadette Lange de Hélène, et Guy Pierrot, Jacques Ling, Gaëtan Jor, Raymond Pélissier, Jean Bollot, Henri Labussière, André Var, Jean-Pierre Lituac, Jean Mauvais. Chronique de Germaine Beaumont et Roger Régent. Bruitage Jean Berriac. Prise de son Jean Pantaloni et Monique Chevillon. Assistante Marie-Denise Vanda. Réalisation Pierre Billard.
Je répondrai pas. L'agence Fiat Lux ne répond plus. N'existe plus, l'agence Fiat Lux. Il n'y a plus que les créanciers et les huissiers pour connaître l'adresse de Nestor Burma et son numéro de téléphone. Il est ratissé, Nestor Burma. Ça remet ça. Ah, vivement que les PTT se décident à me couper la ligne. Heureusement que ça serait pas tardé. Enfin, je suis pourtant pas rouillé, moi. On m'amène une affaire, tiens, n'importe laquelle. Si miteuse qu'elle soit, je me charge de lui faire rendre tout ce qu'elle a dans le ventre. Comme à toutes celles-là, tiens, celles-là, là. Elles sont dans des dossiers, empilées sur des étagères. 120 rue de la gare. CQFD. L'homme au sang bleu. Les paletots sans manches. Puis les autres, tiens, les autres! Les petites affaires bien banales, le tout venant. Mais pardon! Traité à la Nestor. Troussé de main de maître. Ayant livré tous leurs secrets, plus ou moins propres. Tous leurs secrets? Oh, savoir, Nestor, savoir. Si t'allais les regarder d'un peu plus près, ces affaires classées, on sait jamais. T'as pas eu pour client que des enfants de cœur, hein? Si un petit coup d'œil dans ces dossiers allait te faire mettre la main sur une bonne canaille, à qui tu pourrais parler du pays sur un air américain. Excusez que ce papier. Oh, c'est une note de la main d'Hélène. Pauvre Hélène. Secrétaire modèle et sur le sable. Docteur Albert Mouffa, 3 rue Audouard, Boulogne-Billancourt. Une adresse et puis c'est tout. Albert Mauvin. Bon, alors ça a dû dire si je me souviens d'une affaire à laquelle un toubib du nom d'Albert Mauvin aurait pu être mêlé. Enfin, du calme, Nestor, de la patience et de la méthode. Reprends tous ces dossiers un par un. Tu finiras bien par trouver celui d'où s'est échappée cette note de la jolie main d'Hélène Châtelain. Si tu ne l'en trouves pas, eh ben, tu iras te renseigner sur place. Rue Audouard, à Boulogne-Billancourt. Ça te fera prendre l'air. Eh ben, tu vois, si Nestor à Boulogne-Billancourt. Puis pour ce qui est du grand air, t'es servi. Tant de cochon. Bon alors. Alors, tu sonnes ou tu sonnes pas? Hein? Et t'es encore temps de faire demi-tour? Ouais. Si on m'a vu de la villa, de quoi j'aurais l'air? Je le demande. Allez, adieu, va-t'en. Sonne. Il n'y a plus qu'à attendre la courte soubrette.
Le docteur ne reçoit que sur rendez-vous.
Ouais. Par exemple, je me trompe pas, ma mignonne.
Ma mignonne, non,
mais vous nommez bien Polo Sabatier.
Ouais.
Vous êtes bien toujours l'employé de cette vieille fripouille de Pierre Lordi,
mais...
qui dirige une officine prétendant concurrencer l'agence Fiat Lux sous le nom aussi ridicule que cette prétention de Lynx Agency. Ah
Nestor Burma, je te croyais mort, moi.
Non, mais qu'est-ce que tu maquilles, Polo, dans ce gilet rayette?
Tu veux le savoir, Burma? Eh ben, je suis là pour vider les emmerdes.
Fiel, oh là, fuis donc. Est-ce que c'est le vocabulaire d'un serviteur style?
Oh, ça va, pas de salade. Écoute, Burma, on va s'expliquer à l'amiable.
Bon.
Allez, entre. Viens, c'est par ici. Voilà. Hé, essuie-toi les pieds, hein. J'ai pas envie de rassurer le vestibule, moi.
Que se passe-t-il?
C'est Burma, un détective privé. Un concurrent, quoi. Alors, ça fait rien, Toubib. Si vous estimez que la firme que je représente n'est pas à la hauteur, ça...
Ainsi, c'est vous, Nestor Burma. Vous êtes télépathe.
Ah, y a de ça. Le docteur Mauvin, je suppose?
Non, moi, en tout cas, je vois qu'une chose. Vous avez fait appel au service de Pierre Lordi, mon patron, et puis vous convoquez Burma. Ça, c'est pas régulier.
Occupez-vous de vos affaires, vous. Pour commencer, fermez cette porte, Angèle.
Le vrai larbin.
Ferme la porte.
Ah, vous savez.
Quant à vous, monsieur Burma, si vous voulez bien m'accompagner dans mon cabinet, c'est au premier.
Allons-y, docteur.
Alors, monsieur Nestor Burma.
Alors, docteur Albert Mauvin,
j'aimerais bien savoir ce que vous venez chercher chez moi. Une cigarette?
Ah, ça volontiers. Généralement, je fume la pipe, mais je n'ai pas pu me procurer de tabac en venant. Je manquais de monnaie.
De monnaie?
Oui.
Me prendriez-vous par hasard pour un bureau de bienfaisance, monsieur Nestor Burma?
Parlons net, Mauvin. Je suis venu vous proposer un arrangement. J'ai comme une impression que vous avez les jetons de quelqu'un ou de quelque chose, hein? Sinon, pourquoi auriez-vous demandé un chien de garde à Pierre Lordi? Moi, je vous préviens, on aura le temps de parvenir jusqu'à vous, de vous couper en morceaux, de vous faire rôtir, de vous manger à la sauce piquante, avant que Polo se soit rendu compte qu'un intrus se balade dans la maison.
Écoutez, Burma, je n'ai pas l'habitude de donner un os à un type et de le lui retirer ensuite pour le passer à un autre. Quand j'ai besoin d'un, mettons, d'un chien de garde, comme vous dites, c'est d'abord à vous que j'ai pensé. Je vous ai téléphoné plusieurs fois, sans succès.
Ah bon? Ah, c'était vous le téléphone? Eh ben alors, je suis bien télépathe. Non, figurez-vous, docteur, qu'aujourd'hui même, j'ai trouvé par le plus grand des hasards votre nom et votre adresse dans un de mes vieux dossiers. Il n'y était certainement pas pour des prunes.
Tiens, j'ai un dossier chez vous.
Hum?
Et pouvez-vous me dire ce qu'il contient?
Oh, un tas de trucs. Des trucs assez gratinés.
De quel genre?
Oh, je peux pas vous dire ça comme ça.
Vous n'avez rien à dire, Burma. Débinez-vous.
Bah, mettons qu'il s'agissait d'une poupée.
Une poupée, hein?
Eh oui, une jolie poupée.
Je vois. Écoutez, Burma, je me demandais où vous vouliez en venir. On ne peut pas dire que vous n'ayez pas louvoyé. Il est vrai que l'affaire dont il s'agit n'est pas non plus des plus simples.
Ah, pour moi, si. Il me faut du fric.
Vous en aurez, mais il faudra qu'on discute un peu le coup. Ce soir, je suis assez fatigué. Je vais vous donner quelque chose pour regagner votre domicile, autrement qu'à pied, et vous reviendrez demain si ça vous chante.
Si ça... Vous avez le mot pour rire, vous. Vous me paraissez aussi droit que le serpentin d'un chauve-bain, mais vous comprenez ce que parler veut dire.
Voyons, combien ?
Eh ben, 10 000. Hein ? C'est déjà le tarif de nuit pour les taxis.
10 000 ? Fort bien.
Il est sûr, votre coffre, là ? Parce que, avec tout ce qu'il y a dedans, hein ?
Oui, il est très sûr. Et maintenant, bonsoir. Polo, reconduisez oui. M. Burma.
À demain, docteur.
Ça, alors, c'est pas pour dire, mais il y a des faux frères.
Mon Nestor, ah, dans quelle affaire t'as mis le pied, toi. Il avait l'air plutôt coriace, le tout bible. Fermé à double tour, hein, comme son coffre. Et pour les ouvrir tous les deux, il a suffi d'une petite allusion bidon à une poupée. Là. Une blonde, une brune, une rouquine ou une albinos, j'en suis fichant rien moi-même. J'y suis peut-être allé un peu modestement avec mes 10 000 balles. Bon, enfin, on rattrapera ça demain. Demain. Et si au lieu de tomber de sommeil, comme il le prétend, Albert Moffa avait une autre occupation en vue pour ce soir. Tout le temps que t'as été avec lui, il a pas cessé de regarder sa montre. Il serait peut-être pas sans profit de le surveiller. Fais donc le tour de la ville, là. Puis enfin, en essayant de pas te répondre sur le terrain vague. Bon. Eh ben, voici dans la place. La porte vitrée à mi-hauteur, à droite, au rez-de-chaussée, c'est la cuisine. Mon polo est là sur une chaise. Il fume. Il fume. Dans les deux sens du mot. Bon, le cabinet du docteur, ça doit être cette fenêtre éclairée au premier étage. Oui, enfin, la façade. Heureusement, avec toutes ces pierres en saillie, c'est une vraie échelle. C'est un petit exercice de voltige. Exécuté sans filet par Aerius Burma, vedette du cirque Fiat Lux. Oh, oui. Oh, bon sang. Le balcon, je l'avais pas vu, j'ai failli m'assommer. Bon, un rétablissement par-dessus la balustrade. Oh. Eh ben, nous y voici. Par l'entrebâillement des rideaux, je vois toute la pièce comme si j'y étais. Mais qu'est-ce qu'il fait, l'Albert ? Il écrit ? Ben, j'espère que c'est pour ses mémoires. Il va pas me faire poireauter là jusqu'à l'aube pour des haricots, hein. J'espère aussi qu'il n'aura pas l'idée de venir sur le balcon tenter le poids à la température. Ça, c'est un coup de revolver. Ça vient du rez-de-chaussée. Bah, le toubib n'a pas l'air d'avoir entendu. Ah, sacré polo. Dégourdi comme il a dû vouloir jouer avec son pétard et le coup est parti. Ah, c'est marrant tout de même que le toubib n'a rien entendu. Il continue d'écrire tranquillement. Là. Qu'est-ce que c'est ? La porte derrière lui s'est ouverte. Il se retourne. Bon Dieu!
Allô, oui?
Bonsoir, Hélène. Ici Burma.
Oh.
Nestor Burma, je ne sais pas si vous vous souvenez.
Oh, patron, quelle surprise. Je croyais mort ou en prison.
Non, pas encore, non, mais ça ne saurait tarder. Dites donc, excusez-moi de déranger vos rêves, Hélène, mais il faut prendre le boulot quand il se présente, hein.
Le boulot ? Vous avez fait affaire avec Moffa ?
J'ai affaire... Moffa ? Quel Moffa ?
Le docteur Albert Moffa, 3 rue Audouard, à Boulogne-Billancourt. Il avait besoin des services d'un détective privé et je lui ai recommandé mon ancien patron.
Ah, oh, vous êtes bien gentille.
N'avez pas affaire avec lui?
C'est-à-dire que quelqu'un lui a fait la sienne.
Quoi?
Oui, c'est pourquoi j'aimerais vous voir, Hélène.
Eh bien, venez, patron, venez tout de suite. Tant pis pour ma réputation.
Et voilà, Hélène. Même chez les disciples d'Esculape, les coliques de plomb, ça pardonne pas.
Alors, vous avez vu l'assassin?
Oh, j'étais aux premières loges du balcon. Alors, on peut pas dire qu'il était joli, joli. Hein. Matinée, Frankenstein, Nosferatu, pour vous donner l'idée.
Oh,
vilain, oh le vilain.
Et son coup fait, il a disparu.
Non, pensez-vous, il n'était pas pressé, l'affreux. Il a commencé par empocher la feuille de papier que le docteur était en train de noircir à son entrée. Il a fait ensuite une ponction au coffre-fort. Pas de quoi entretenir le bataillon de femmes nues des Folies Bergères au grand complet, mais tout de même, un matelas assez confortable. Ce qui m'étonne, c'est qu'il en ait laissé à peu près autant dans le coffre. Et ce qui a paru l'étonner, lui, ce sont les nombreuses bouteilles que j'avais moi-même remarquées sur une étagère dans le cabinet du tout-bébé. Il en a pris une, il l'a débouchée, il l'a flairée, il a fait la grimace. Il n'avait pas l'air de comprendre.
Et il est sorti?
Oui, ah bah, pour revenir presque tout de suite. Avec Polo.
Ils étaient en cheville, tous les deux.
Oui, enfin, c'est-à-dire que Frankenstein traînait mon Polo sous les aisselles.
Oh.
Et que Polo était aussi nerveux qu'une sardine dans une boîte de conserve. Le premier coup de feu, c'est lui qui l'avait stoppé. Et c'est lui aussi qui a stoppé les deux derniers.
Les deux derniers?
Oui, enfin, ceux par lesquels l'affreux a mis le point final à une ravissante petite mise en scène. Il a adossé le Polo dans un angle de la pièce. Les bras ballants... La tête inclinée sur l'épaule, dans une pose charmante de naturel. Puis après ça, sans se presser, il a culbuté un fauteuil et une chaise. Il a jonché le parquet de quelques papiers raflés sur le bureau.
Mm-hmm.
Il a pris un revolver dans un tiroir et expédié deux de ses pruneaux dans feu Polo.
Oh.
Après quoi, il a placé bien gentiment le dit revolver entre les doigts de Mofa, son légitime propriétaire. Et il a fait cadeau à Polo de son propre revolver à lui, soigneusement essuyé au préalable. Et puis ce n'est qu'ensuite qu'il s'est éclipsé, tranquille comme Baptiste.
Je m'étonnerais que vous l'ayez imité, Burma.
Oh, non, mais comme vous me connaissez, Hélène. Ah, oh, des secrétaires comme vous.
Vous avez apporté votre collaboration bénévole à cette mise en scène de Boucherie Mutuelle?
Hein? Oui, enfin, bien sûr. Enfin, presque. Presque bénévole. Non, j'ai tenu à corriger post-mortem la mauvaise impression que j'avais pu donner de son vivant à Albert Moffat. Bon, enfin, sans rien exagérer, quoi. Dites, à propos, Hélène... Je vous dois encore quelques petits mois d'appointement, je crois. Alors voici toujours un petit à-compte. Hein.
Merci, patron.
Voilà.
Et qu'avez-vous fait ensuite?
Une petite visite domiciliaire.
Intéressante.
Ah, assez, oui. D'abord, les bouteilles. Les bouteilles. Les bouteilles qui avaient intrigué Frankenstein. Vous savez ce qu'elles contenaient? Non, ben, de l'essence.
De l'essence?
De l'essence, oui. Ah, j'aurais bien aimé savoir ce que le docteur écrivait juste avant de perdre le goût du pain, mais son buvard reflété dans une glace ne m'a rien révélé. Je suis passé dans la pièce à côté, la chambre à coucher... Il y avait là deux valises prêtes pour le départ. Dans l'une, un carnet d'adresses. Où c'est que j'ai foutu là? Ah oui, tiens-le là. J'ai pas encore eu le temps de l'éplucher. Mais le plus intéressant, c'était dans la cave. Une caisse en partie ensevelie sous un tas de charbon, non loin de la chaudière.
Elle contenait?
Un cadran, des aiguilles, des ressorts, des rouages. Et dans une boîte à l'écart, un détonateur n'attendait que d'être fixé à l'encens pour en faire une charmante et puissante bombe en ordre de marche.
Christy!
Eh oui, comme vous dites, oui. Non, c'est parce que ces talents pyrotechniques vous étaient connus que vous avez pensé à ce Moffat comme un client possible pour moi.
Non, pas du tout.
Bon, enfin, ce papier, cette note avec son nom et son adresse que j'ai trouvé dans mes vieux dossiers, elle est bien de votre main, non?
Bien sûr. Mais je ne comprends pas que vous l'ayez trouvé dans un dossier.
Pourquoi ça?
Commençons par le commencement, voulez-vous, patron?
Bon, ben allez-y, parce que moi j'ai soif maintenant.
Alors, j'ai rencontré Moffat il y a quelques jours chez des amis, Eugène et Suzanne Guérin. J'ai dû vous parler d'eux.
Oui, vaguement.
Bon, lorsqu'il a appris qu'il n'y a guère, j'étais la secrétaire auxiliaire, agente, confidente d'un détective privé.
Non,
ça a paru l'intéresser. Il m'a laissé entendre qu'il aurait peut-être besoin d'un garde du corps.
Pourquoi ça?
Il m'a dit redouter des ennemis puissants et sans scrupules. J'ai cru bien faire en lui donnant votre adresse et votre numéro de téléphone.
Oui, c'était quand exactement cette rencontre?
Lundi soir, il y a 3 jours. Le lendemain, je suis passée chez vous. Je voulais vous engager à relancer Moffat s'il ne vous faisait pas signe. Vous n'étiez pas là.
Non.
J'ai déchiré 2 pages de mon agenda de poche, écrit sur l'une l'adresse de Moffat, sur l'autre le motif de ma visite, et glissé le tout sous la porte sans enveloppe. Ah. Ah, c'est pourquoi je ne comprends plus lorsque vous me dites avoir trouvé seulement l'adresse et encore dans un vieux dossier.
Ben, moi non plus. Moi non plus, je comprends plus. Mais enfin, on le comprendra sans doute un jour. Tout finit par s'expliquer avec Burma. Bon, en attendant, Hélène, je vais vous laisser regagner votre dodo.
C'est gentil à vous, patron. mais qu'est-ce qu'il y a de drôle?
Que vous m'appeliez patron, Hélène. Vous trouvez pas ça marrant? Non, écoutez, regardez-vous et regardez-moi. J'ai tout du clodo et vous, tout de la vampe fascinatrice de banquier.
Je n'aurais pas dû vous offrir un verre de rhum à votre arrivée.
Non, mais vous pouvez en mettre ça.
Il y a des mots à ne pas prononcer avec vous.
Allez, à la santé de l'agence Fiat Lux, Hélène. On va la remettre sur pied, vous allez voir. Bon, bah là-dessus, moi, je m'en vais.
Au revoir, patron.
Ah, dites donc. Oui. Vous permettez que je jette un petit coup d'œil sur le carnet d'adresse de notre défunte amie. Enfin, j'en ai pour une minute, d'ailleurs.
Je vous la compterai dans mes heures supplémentaires.
Eh bien, dites donc, cet homme de l'art manquait plutôt d'ordre. Hein. Il devait pas savoir son alphabet. Oh, quelle pagaille. Non, vous gênez pas pour lire par-dessus mon épaule, surtout si vous voyez un nom de votre connaissance.
Ici.
Hein, ici. Burma, Nestor Burma, non, je sais pas. Trop
long, ça. Bonne idée de confisquer ce carnet s'il était tombé entre les mains de la police.
Eh oui, elle aurait pu s'imaginer les choses. Hein. Ah! Ah, voici le nom de Lordi, notre cher concurrent. Eugène et Suzanne Guérin, ça sont vos amis, ça?
Oui. Hein?
Dubois. Pascal Dubois, Square Conincourt. Ça me dit vaguement quelque chose, Dubois.
Mais il doit bien y en avoir deux pages dans la mémoire du téléphone, Dubois.
Oui, ça, bien sûr. Oui. Rimbert, Charles Rudaloutre. Charles Rimbert. Eureka!
Archimède est-elle vos ancêtres?
Non, Charles Rimbert, Hélène. Charles Rimbert, Charlot, l'Eureka. Vous y êtes?
Ah, cet entrepreneur d'agression bidon.
Oui, comme vous dites, si élégamment. Un artiste dans son genre. À la disposition des soupirants qui veulent se donner des gants auprès de leur dulciné en l'arrachant sans danger aux assauts d'un immonde voyou. Dans une entrevue avec ce petit rigolo serait peut-être profitable. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Hélène?
Vous croyez qu'il travaillait pour Moffat?
Ah, et qui sait? En tout cas, moi, je vais lui demander. La rue d'Aloutre, c'est pas très loin de chez moi. Je m'y rends ce pas.
En me pointant sur le coup de 11h, 11h30, je vous réveillerai pas trop tôt.
Essayez toujours. Bonjour Hélène.
Bonjour patron.
Ben dites donc, vous êtes chargée ou?
J'amène ma machine à écrire personnelle.
Ah, petite futée. Qui vous avait dit que j'avais mis au clou celle de l'agence?
Et voici les journaux de midi.
Ah, bah déjà. Il parle de Boulogne-Billancourt?
Un seul, La Planète. Son rédacteur profite de ce que Polo Sabatier figure au tableau pour pousser une charge à fond contre les détectives privés.
Ah, rien dans le crépuscule de notre ami Marc Covey?
Non, rien.
Bon, Hélène.
Oui?
Avant que vous repreniez vos fonctions,
oh.
Il est une chose que je tiens à vous dire. Je ne vous soupçonne plus.
Bien aise de l'apprendre.
Cette nuit en rentrant, j'ai procédé à une reconstitution de la trouvaille de l'adresse de Moffat et j'ai mis la main sur la deuxième feuille de votre agenda de poche. Oh oui, c'est très simple. Quand vous avez glissé vos deux papiers sous ma porte, l'un a poussé l'autre sous la carpette.
Il aurait besoin d'être changé, votre carpette, soit dit entre parenthèses.
Oui, enfin, ça, c'est autre chose. Quant à l'autre feuille, celle qui portait l'adresse de Moffat, c'est pas dans un dossier que je l'ai trouvée, mais à côté d'un dossier.
Ah.
Oui, j'avais étalé mes archives par terre, enfin, jusque là-bas, dans le vestibule.
Ah,
quoi.
Et voilà encore un mystère knock-out.
Ouais, heureusement, hein, car entre-temps, un autre est venu s'ajouter à la liste. Outre Moffat et Polo, un troisième cadavre est entré en scène.
Sapristi, à qui donc?
Le gangster pour farce et attrape de notre connaissance, Charles Rimbert dit Charlot l'Eureka.
Oh.
Cette nuit, il m'est tombé dans les bras. Tout ce qu'il y a de plus mort. Un couteau dans les épaules quand j'ai ouvert l'armoire qui constituait tout son mobilier avec son pucier.
Oh mon Dieu.
Oui, enfin son pucier, excusez-moi, mais c'est le mot propre. Hein. Ça devait pas rapporter gros, son petit métier.
Tout le monde ne pense pas à s'installer détective privé.
C'est amusant ça. Bon, revenons à Boulogne-Billancourt. Qu'est-ce qu'on en dit dans La Planète?
On laisse entendre que Moffat et Polo se sont entretués, l'un ayant surpris l'autre au moment où il s'apprêtait à vider son coffre.
Dites donc, Frankenstein peut demander sa carte de stagiaire au syndicat des metteurs en scène. Hein.
Suzanne Guérin m'a téléphoné,
ah bon?
Comme j'allais partir de chez moi. Elle avait vu cet article, elle estime de son devoir d'informer la police des craintes exprimées par Moffat. Je n'ai pas cru pouvoir l'en dissuader.
Ouais. Autrement dit, vous et moi, nous n'allons pas tarder à être convoqués qu'à des orfèvres. Mais oui, évidemment que les flics ignorent que j'ai assisté à la corrida de Bianco, il va falloir que... Arranger une petite salade. Là.
Je vous fais confiance pour ça.
Merci. Bon, en attendant, arrangez-vous pour revoir Suzanne Guérin ou plutôt. Et tâchez d'apprendre par elle s'il n'y a pas une histoire de femme dans la vie de feu Moffat.
Vous savez, les Guérin le connaissaient assez peu. Il y a quelques mois, le mari de Suzanne a fait une maladie bénigne. Un ami commun lui a conseillé de consulter Moffat. Ils ont sympathisé sans plus.
Qui c'est cet ami commun?
Il est parti à l'étranger.
Oh. Zut, hein, la poisse. Hein. Bon, enfin, Je vais aller interviewer mon copain Marc Covey à la rédaction du Crépuscule. On sait jamais. Salut Covey!
Tiens, Burma, bonjour, je vous croyais mort.
Ah bah ça, c'est ce que tout le monde dit, ça. Dites donc, à propos de mort, qu'est-ce que c'est que cette histoire de Boulogne-Billancourt?
Ah, m'en parlez pas, si je tenais l'enfant de cochon qui a rencardé Pascal Dubois.
Pascal Dubois?
Oui, c'est lui qui est sur l'affaire pour la planète. Vous savez comment il a été mis au courant?
Non.
Par un coup de téléphone anonyme. Et moi alors, hein? Son informateur, il n'a pas pu me téléphoner, me considère sans doute comme une quantité négligeable. Et le Crépuscule, il prend ce canard. Pourquoi? Pour une feuille de chou? Mais regardez-moi ce tombeau de dépêche. Eh bien, il n'y a rien dedans. Rien de rien sur cette sacrée bon sang d'affaires. S'il y a des tuyaux, sont sans doute encore pour Dubois, hein, par fil spécial. Ah. Ah, ça me fait une belle jambe qu'un dénommé Foulon se soit pendu auprès du cadavre de sa belle-mère, trucidé par ses soins, ou qu'un dénommé Jarot, évadé du pénitencier de Nogé en Belgique, soit pas encore repris depuis 4 jours qu'il a joué la fille de l'air. Et cette caisse, agrippée par une dragueuse dans la Seine et contenant des explosifs et un mécanisme à retardement, quand ça m'intéresse? Vive l'anarchie! Après tout, ils peuvent bien faire sauter toute la ville.
C'est ça qui donnerait un papier intéressant, hein, Covey? Bon, une question.
Oui?
Pierre Lordi, mon honorable confrère, là, le patron de Polo Sabatier, a été entendu par le commissaire Loudière chargé de l'enquête. Est-ce qu'on connaît le résultat de cette audition?
Non, les flics sont muets et Lordi aussi.
Ça vous plairait de savoir ce qui s'est dit entre Lordi et Loudière?
Non, ça serait-il de la bonne information?
Tu parles!
Bon, alors écoutez-moi bien.
Oui?
Je vais, en vous quittant, porter à la PJ un témoignage spontané.
Oh, hein? Spontané.
Ah, oui, spontané. Et qui ressemblera beaucoup à la déposition de Pierre Lordi. Voilà. Ces messieurs me demanderont certainement à moi aussi de la boucler. Seulement, moi, avant d'aller les voir, j'aurais tenu à prendre conseil de mon vieux copain Marc Covey, spécialiste en affaires criminelles. Mm-hmm. Hein? Et dame, je ne suis pas responsable de ces indiscrétions.
Dites, Burma, vous n'allez pas me faire jouer un rôle un peu...
Dis donc, hein? Mon vieux, Pascal Dubois fera peut-être moins le dégoûté, hein? Il habite bien Square Colincourt.
Sacré Nestor. Faites-moi confiance, je vais tartiner quelque chose au poil avec vos déclarations.
Voilà. Bon, alors voilà toujours un titre, hein. C'est par erreur que Paul Sabatier a été tué à Billancourt. À la ligne. Mm-hmm. Le docteur Moffat avait fait appel au service de Nestor Burma, l'homme qui met le mystère knock-out.
Et allez donc.
Oui, Nestor Burma, en gras, hein? Allô, Hélène?
Oui?
C'est Burma.
Ah.
Je vous appelle du bureau de poste du boulevard du Palais, en face de la tour de l'horloge. Mm-hmm. Alors écoutez, voici ce que je m'en vais raconter à la PJ. Tâchez de pas vous couper quand ce sera votre tour d'être sur la sellette. Hein? Lundi soir, vous avez rencontré Moffat. Mardi, en mon absence, vous m'avez apporté votre mot. Je ne l'ai pas trouvé tout de suite. Mercredi, mon téléphone a sonné, mais je n'ai pas répondu, puis cause des créanciers.
Tout ça n'est que l'expression de la vérité, patron. Pas de mensonges.
Oui, mais ils viennent, les mensonges.
Vous me rassurez.
Bon. Mercredi soir, j'ai enfin dégoté votre mot. J'ai essayé de vous téléphoner pour vous demander des explications, mais vous étiez au cinéma. Ah, vous trouvez bien dans votre coin un film que vous avez déjà vu. Mm-hmm. J'ai alors cherché à joindre Moffat, toujours par téléphone. Personne ne répondant, mon femme ne contredira pas, j'ai laissé tomber. C'est tout.
Compris, patron.
Bon, parfait. Alors, souhaitez maintenant que le commissaire Loudière comprenne aussi vite et aussi bien que vous.
Eh bien, je vous remercie de cette déposition spontanée, monsieur Nestor Burma.
Oh, mais il n'y a pas de quoi, monsieur le commissaire.
Je vous remercie d'autant plus chaleureusement qu'il m'est très agréable de vous voir vous conduire en bon citoyen.
Ah, j'ai toujours été un bon citoyen.
Ah, ce n'est pas la vie de tout le monde.
Ah, ça vous m'offensez, monsieur l'inspecteur Chaput. Votre collègue Florimond Farou...
Tout le monde ne partage pas la mansuétude de Farou à l'égard d'un zigoto de votre espèce.
L'inspecteur Farou est l'honneur de la tour pointue. Qui est-ce qui a arrêté en même temps les hold-uppers du Crédit Lyonnais, 3 balles de revolver? C'est vous ou c'est mon ami Farou?
Allons, nous ne sommes pas là pour nous chamailler, voyons. Vous avez une sale réputation, Burma, vous faites tout pour l'entretenir, mais vous m'êtes sympathique.
Merci, monsieur.
Alors, laissez-moi vous donner un conseil. Ne vous mêlez pas de ce qui ne vous regarde pas. Et ne fréquentez pas trop les journalistes. Vous m'avez compris?
Oh, vous pensez, monsieur le commissaire.
Oh, En somme, le brave commissaire Loudière met dans le même sac détective privé et journaliste. Hein.
Exactement.
Il doit le reprocher de le menacer de chômage en se chargeant de son travail. Et au fait, vous n'avez pas acheté la dernière édition du Crépuscule en cours de route Burma?
Ben non, pourquoi?
Ah, permettez-moi de vous faire hommage de cet exemplaire. Qu'est-ce que vous dites de ce titre?
Pour son malheur, le faux tueur en connaissait un vrai.
Et de cette photo?
Frankenstein? Mais qui est-ce?
Victor Jarraud, l'évadé du pénitencier belge de Nogé. Oh. Oui, il doit ses physiques avantageux à une tentative malheureuse de chirurgie esthétique pratiquée avant son arrestation et qui aurait plutôt facilité celle-ci. Vous pensez qu'il ne pourrait pas passer inaperçu? Il a été signalé dans le 14e arrondissement. La piste a conduit les inspecteurs au domicile de Charles Rimbert. Celui-ci a hébergé l'évadé, qui l'a remercié de son hospitalité en lui plantant un poignard entre les deux épaules. On a retrouvé la trace de Jarraud chez un fripier, chez qui il a changé de frusque. Et au moment de payer son emplette, il a exhibé un imposant rouleau de billets de banque. Alors la police se demande si Rimbert ne possédait pas un magot et si ce n'est pas pour s'en emparer que Jarraud l'a trucidé.
Vous êtes toujours aussi furax de ne pas avoir reçu de coup de téléphone de l'informateur de la planète, hein, Coven?
Et comment?
Eh ben, vous allez en recevoir un. Enfin, on fera comme si vous en aviez reçu un. D'un fantôme. Un petit lutin, quoi. Kiff, kiff, Pascal Dubois.
Ouais, mais je serais censé avoir appris quoi par ce coup de fil?
Ceci. Mon fan ne craignait pas plus pour sa peau que moi pour mes valeurs en banque. Mais il voulait donner l'impression qu'il était menacé. À qui et pourquoi? Mystère. Toujours est-il qu'il cherche ostensiblement un garde du corps. On engage même effectivement un. Il pousse la comédie plus loin. Il embauche Charlot Loreca pour venir jouer les terreurs au moment opportun. Mais Victor Jarraud, hébergé par Rimbert, apprend leur petite combinaison et se substitue à son copain. Et tout le monde prend sa ration de ferraille.
Pourquoi?
Eh ben, supposons que ce soit le bistouri de Mofa qui a si bien arrangé le portrait de Jarraud.
Ah, bon sang, Burma! Tout ça, c'est du sensationnel avec un grand S, mais vous n'avez pas la moindre preuve.
Ah, admettons que ce soit une théorie.
Oui, théorie. Alors, quel but poursuivez-vous en me confiant le soin de la publier?
Toujours aussi confiant, quoi, hein. Quel but je poursuis?
Oui.
Me remettre en selle. Et remonter l'agence Fiat Lux. Si j'étais le seul à voir clair dans cet imbroglio, ça me ferait une avantageuse publicité, non? Eh bien, c'est pour cette raison qu'il ne faut pas que le résultat de mes cogitations reste confidentiel. Il faut que ça frappe le public. Et que plus tard, je puisse dire, c'est moi, moi qui avais inspiré cet article, c'est moi qui ai débrouillé cette affaire, moi, Nestor Burma, l'homme qui met le mystère knock-out. Vous comprenez, mon petit père?
D'accord, je marche. Ah, c'est Pascal Dubois qui va en faire une bobine.
Dis donc, à propos de Pascal Dubois, je serais pas fâché de lui dire deux mots, moi, à votre confrère, là. Il m'intéresse, lui et son mystérieux informateur. Où est-ce qu'on peut le rencontrer en dehors de son journal?
Ah, j'ai entendu dire qu'on le voyait régulièrement chez Stani, là, sur le coup d'11h du soir. C'est un gars qui cartonne dur.
Bah, chez Stani?
Oui, une boîte des Batignolles du côté de la fourche.
Une table, messieurs?
Oui.
Celle-ci?
Oui, ça va.
Je vous recommande le sidecar cocktail.
Pardon? Le quoi?
Le sidecar cocktail.
Ah bon, bah alors, amenez-nous en deux. Dis donc, Marc, il est là, votre copain?
Non, je le vois pas. Dites-moi, garçon, vous n'auriez pas vu monsieur Pascal Dubois, s'il vous plaît?
Le journaliste? Oui. Peut-être en bas, il fait partie du club.
Le club? Quel club?
Ben, un tripot que Stani a aménagé dans son sous-sol. On y joue un peu à tout ce qui a été inventé pour perdre sa chemise. Au faro, à la passe, au poker, à la roulette. Tenez, voici un petit carton publicitaire, là, sur notre table.
Soyez de votre temps, adhérez au club La Poupée, l'endroit le plus sélect de tout Paris. Oh, pour les parrainages, s'adresser à Monsieur Georges, gérant. Club La Poupée.
Les deux sidecars, messieurs.
Merci.
Dis donc, il y a des attractions ici.
Bien sûr. La vedette va passer dans un petit moment.
Qui c'est, la vedette?
Une américaine, monsieur, une chanteuse, comme ça. Poupée Stella.
Pardon, vous dites?
Poupée Stella.
Hé, hé, ça te va pas, Burma?
Non, c'est la chaleur. C'est... Ah bon? Non, excusez-moi, Covey, il faut que j'aille faire un petit tour au lavabo. Gaffez toujours l'entrée ou la sortie de Dubois pendant ce temps-là.
Entendu, mon vieux.
Parce que c'est bien prudent, Nestor, cette petite promenade clandestine dans le labyrinthe des couloirs de Justani. En tout cas, c'est pas très simple. C'est presque aussi poussiéreux que le tapis sur lequel l'autre soir tu étalais tes dossiers à la recherche d'un pigeon. Le pigeon, c'était Moffat. Il a suffi que tu lui parles d'une poupée pour l'intéresser. La vedette de chez Stani se nomme Poupée Stella. T'as un nom presque aussi américain que Lynx Agency. Et le tripot dont tu explores présentement les dépendances s'appelle La Poupée. Où est-ce qu'il va te mener ce dédale? Tiens, qu'est-ce que c'est que cette lumière? Une imposte vitrée au-dessus d'une porte. Mais on parle derrière cette porte.
Espèce de salopard! Si,
c'est dit. Eh ben, cette chaise a été mise là tout exprès pour que tout le monde dessus. Allez! Ah. Voyons les acteurs de cette représentation privée. Oh, ce gros patapouf en technicolor. Costard bleu, cheveux blancs, moustache noire, pommettes rouge sang. Ça peut être que Stani, hein, le maître de séance. Mais alors son challenger n'appartient visiblement pas à la même catégorie. La fédération de quatre ne devrait pas permettre ça. Ce gringalet flappy ne fait pas le poids. Hein.
J'ai dit que vous buvez trop, que vous vous droguez. Mais les ça les deux à la fois. Ça vous jouera un mauvais tour, Pascal Dubois.
Voilà, merci pour les conseils. Hein.
Pascal Dubois.
Ah, vous croyez, Stani? Vous oubliez que je dispose d'une tribune, moi. Qu'arriverait-il si je lançais dans la planète le bruit que vous n'êtes pas étranger à la mort de Moffat?
Ah, hein, et comment c'est que vous feriez?
Mais le téléphone n'a pas été inventé pour les chiens. Non. Je mettrais ça sur le compte de l'anonyme qui m'a déjà rencardé et vous seriez bougrement empoisonné.
Ah,
hein,
que j'ai l'esprit déjà assez comme ça. Il ne comprend rien à ce que vous dites, Dubois. Pourquoi Dio, je deviens fou, complètement cinglé. C'est cette poupée. Elle a dû arriver un vendredi ou quelque chose comme ça. Pourtant, elle m'avait plutôt porté bonheur. C'est depuis qu'elle a disparu.
Oh, ne me racontez pas que vous n'avez plus la poupée, si. Stani. Moffat vous l'a fauchée, d'accord, mais vous la lui avez reprise. Quoi? En lui réglant son compte, à lui et à son garde du corps. Oh. Alors, où vous les lâchez, hein? Ou je sors une édition spéciale qui fera sensation.
Quoi? C'est ces sacrés toubib qui m'a fauché la poupée, hein? Tu étais au courant? Comment c'est tout ça, Dubois? Dis, tu vas me le dire?
J'ai mes informateurs, moi.
Ah, les Espagnols, hein? Moffat m'a fauché la poupée pour les refiler aux Espagnols. Hein? Et il y a des années que court après. Mais je n'ai jamais voulu m'en séparer. Parce que je la trouvais qu'elle me portait bonheur. Et c'est vrai. Depuis qu'on me l'a barbotée, ça ne tourne plus rond.
Oh, en tout cas, elle n'a pas porté bonheur à Moffat.
Et à toi non plus, Pascal Dubois.
Hé, là, je suis pas dans le coup, moi.
Qu'est-ce qui se passe, Stani?
À toi de jouer, Nestor.
Alors je vous retiens, Burma. Vous me plaquez là une table de chez Stani en me disant que vous allez faire un tour au lavabo et un quart d'heure plus tard, vous me demandez au téléphone pour me dire de rappliquer en vitesse à ma voiture.
Eh ben, je vous conseillerais même pas de tarder à monter dedans, les crevettes. Montez, allez, vis ça.
Hé, vous croyez à mon Léry?
Eh ben, je voudrais y être. Mais je souhaite pas du tout que nos concurrents nous rattrapent. Jetez donc un coup d'œil sur le siège arrière.
Bon Dieu, Dubois, Pascal Dubois. Mais qu'est-ce qu'il a?
Colique de plomb. L'épidémie s'étend. Dubois a arrêté au passage quelques bouts de plomb qui voltigeaient dans le bureau de Stani.
Et il est mort?
Ah non, non, c'est Stani qui est mort. Dubois a tiré le premier.
Bon, qu'est-ce qu'on fait, Burma?
Eh ben, on le dépose à la porte d'un hôpital. On tire la sonnette. Puis après, vous me jetez à ma porte en trois tours de roue. Je serais pas fâché de me trouver chez moi après les émotions de cette journée.
Les mains, et vite!
Bah, qu'est-ce que...
Tais-toi. Et pas un geste, pendant que je te fouille. Fichtre. Rien que deux convaincants pour monsieur tout seul. Allez, avance et retourne-toi.
Voilà.
Assieds-toi là. Oui. Et bouge pas.
Et alors? Victor Jarreau.
Tu connais mon nom?
Je suis détective. Je connais un tas de trucs que les autres ignorent.
Elle joue pas au petit soldat, Nestor Burma. Et croise les mains derrière la nuque. Et tiens-toi tranquille. Bon. Je n'en suis pas à un meurtre près, même de détective privé.
À preuve, le faux larbin de Moffat.
Ah, ça, pour Moffat, je comprends. Ça, c'est lui qui t'avait tellement bien rangé la binette.
Ouais, hein. Ce salaud-là n'était même pas un vrai docteur. Il s'était fait foutre à la porte de la faculté avant d'avoir terminé ses études. Mais si j'avais su...
Si t'avais su, tu serais allé trouver un membre de l'Académie de médecine, bien sûr.
Ouais, fais pas le malin, Burma. Ou si tu l'es tellement, explique-moi ce que veut dire ce papier. Tiens.
Étrange démarche de Nestor Burma venu me menacer de la part de Stani. Et moi qui avais songé à lui comme garde du corps, j'ai fait mine de chanter « Demain, j'avertirai la police ». Qu'est-ce que ça signifie, ce truc-là?
C'est à moi de te le demander, Burma. J'ai trouvé ce paplard sur le bureau de Moffat. Qu'il ait eu besoin de garde du corps prouve qu'il devait être en train de préparer encore une entourloupette à quelqu'un. Peut-être à ce Stani, que je ne connais pas. Hein, j'ai l'impression qu'il y a du fric à ramasser là-dedans. Et toi aussi? T'as dû renifler l'odeur? Alors je t'écoute. Et je suis pressé, hein.
Dis donc, depuis quand t'es gaucher, Victor Jarreau?
Hein?
Oh! Et voilà! Bon. Tu permets que je te fasse les poches à mon tour? Enfin, qui ne dit mot consent, hein? Mon revolver. Celui de l'ami Pascal Dubois. Et ce troisième pétard que voici, à qui est-il? Mais dis donc, mais c'est un modèle tout à fait spécial, ça. J'en ai jamais vu de pareil que dans les mains des flics, moi. Et tiens, de calibre, alors, où est-il? Je parie qu'il aura glissé sous le lit. Avant de m'en assurer, tu permets, je t'enlève ta ceinture. Et je t'attache les mains avec. Là, pour les pieds, je vais prendre la mienne. Ah! Ah, voilà. Bon, et ben maintenant, allons voir sous le lit, après ton pétard. Il est bien. Mais bon sang, il n'est pas tout seul. Il y a aussi des vêtements sous le lit. Et quelqu'un dans les vêtements. L'inspecteur Raymond Chapu. Dis donc, Jarreau, tu te mets bien? C'est pour ça que tu tenais ton feu de la main gauche et non pas de la droite, comme chez Moffat? L'inspecteur Chaput t'avait abîmé le bras droit, hein? Dis donc, tu veux que je t'aide à répondre?
C'est pas la peine. Ce flic était déjà là, installé comme chez lui quand je suis venu pour t'attendre. On a tiré ensemble. Et il m'a vachement blessé au bras droit, oui. Mais lui, je l'ai tendu pour le compte.
Eh ben, je finirais par croire que vous auriez aussi bien fait, l'un et l'autre, de ne pas vous occuper de Nestor Burma. Hein? L'inspecteur Chaput m'aimait pas beaucoup. Il a dû avoir l'idée de mener une petite enquête personnelle. Ah, oh, dis donc ce qu'il a dû jubiler en te voyant arriver. Un privé de mèche avec un truand de ton acabit. Mais, écoute, tu te rends compte?
Oui, il a pas jubilé longtemps.
Oh. Tu sais, tu vaux guère mieux que lui, hein, Jarreau. Dis donc, tu permets, j'ai un petit coup de téléphone à donner. Assieds-toi, bon, assieds-toi. Police judiciaire, passez-moi le commissaire Loudière, je vous prie.
Conclusion, Burma.
Conclusion, monsieur le commissaire. L'intention de Moffat était bel et bien d'expédier ad patres son garde du corps. Ce pauvre Polo Sabatier, en même temps que ce tueur à la manque de Charlot le Réquin. Et puis il aurait disparu, après avoir remonté le mécanisme de la bombe que j'ai découverte dans la cave, et répandu un peu par tous les sens qu'il avait eu le soin de transvaser dans des bouteilles pour parer à l'inconvénient d'une découverte d'un nombre anormal de bidons lors de l'enquête. La villa aurait sauté et flambé, et les cadavres calcinés auraient été reconnus pour ceux de Paul Sabatier et d'Albert Moffat. Non mais... Faites-lui rétrospectivement confiance. Il serait débrouillé pour que le pauvre Réca soit particulièrement méconnaissable. L'incendie et le massacre auraient passé pour la mise à exécution des menaces de ses ennemis. Et cette mort à grande publicité lui permettait de mettre les voiles en toute quiétude avec la fameuse poupée.
Nous n'avons trouvé ni l'essence en bouteille, ni la bombe dont vous parlez.
Ah oui, mais une bombe a été repêchée dans la Seine le lendemain, commissaire. On a dû faire prendre aux bouteilles d'essence le même chemin fluvial. Pascal Dubois pourrait vous renseigner, je suppose. Il devait être de mèche avec Moffat. Arrivant à Billancourt, après la boucherie, il a fait disparaître bombe et essence. Il a inventé le coup de téléphone anonyme en s'arrangeant pour égarer les soupçons sur ses vermines de détective privé. En quoi, sans le savoir, il jouait le même jeu que Moffa avec ce petit papier relatant mon étrange démarche et raflé par Jarrot. Remarquez que, dans le même poulet... Oh, je vous demande pardon. Non, c'était pas intentionnel. Hein. Moffa mettait Stani dans le coup. Pour en revenir du bois, peut-être que celui-ci, malgré tout ce qu'il a pu raconter, ou même Stani, a-t-il récupéré la poupée chez Moffa?
Non. Autant vous le dire, Burma, Dubois est mort à l'hôpital. Ah. Et avant de passer de l'autre côté, il a parlé. Sa déclaration confirme en tout point vos suppositions. Enfin, sauf pour ce qui est de la poupée. Il ne savait vraiment pas ce qu'en avait fait Moffa.
Mais enfin, qu'est-ce que c'est que cette sacrée poupée? Vous le savez, vous, commissaire?
Oui, c'est une statuette aztèque de grande valeur. Un objet de culte en or massif incrusté de pierreries. Elle a été barbotée à Madrid au cours de la guerre civile. Pas plus grande que ça, mais elle vaut une fortune.
Ah, ça je vous crois, oui.
Il y en a d'ailleurs une pour qui la restituera à l'Escorial. Une fameuse prime, c'est moi qui vous le dis.
Pardon, une prime, vous dites?
Vous me paraissez drôlement familiarisé avec le jus de chic, Burma. Exercez donc vos ménages sur cette statue. Et peut-être que vous la décrocherez, la prime.
Alors ça, monsieur le commissaire, j'en serais pas autrement fâché. Toute cette histoire m'a pas rapporté un rond. À part le fric que m'a refilé Moffa. Ah, dites donc, commissaire, à propos, j'espère que je peux le conserver quand même.
Vous l'avez encore?
Non. Même, il m'en faudrait d'autres. Hein. Vous ne voyez pas d'inconvénient à ce que j'accorde une interview exclusive à mon copain Marc Covey?
Que je vous autorise ou non, le coup sera le même, n'est-ce pas?
Merci, monsieur le commissaire, merci. À propos de la poupée, une petite question. Moffa, c'est un type ordonné, méticuleux et tout. D'accord?
D'accord.
Bon, alors, par hasard, vous, ou vos collègues, vous n'auriez pas trouvé chez lui un indicateur de chemin de fer ou de ligne aérienne, enfin, un document dans ce genre-là, sur lequel il aurait coché une ville?
Et nous avons trouvé un chèque avec le nom de Perpignan souligné et plusieurs horaires pointés.
Perpignan, mais non, mais c'est sur le chemin de l'Espagne, ça, Perpignan. À votre place, je câblerai à vos collègues de là-bas, monsieur le commissaire, oui. Je leur câblerai de rasier dans tous les hôtels de la ville les lettres arrivées depuis quelques jours et en attente de destinataire.
Vous croyez que l'une de ces lettres contient la statue?
Non, mais peut-être un bulletin de consigne. Bon, là-dessus, commissaire, si vous n'avez plus rien à faire chez moi, je vous saurai grand gré de me laisser pioncer. J'ai l'impression qu'il y a un siècle que ça ne va pas arriver. Il n'y a pas d'abonné au numéro. Allô, madame.
C'est Hélène, patron.
Bonjour,
je viens dire votre interview dans le crépuscule, c'est sensationnel. Ça vaut que je vous embrasse.
Vous pourriez livrer à domicile, dites donc. D'ailleurs, je me demande pourquoi vous n'êtes pas à votre poste ici, à répondre vous-même à votre propre coup de téléphone.
Oh, chouette, patron, ouvre. J'accours, je suis là dans 10 minutes.
Ah non, n'exagérons rien. Demain matin sera très bien, hein. Malgré l'ardeur dont je brûle de vous revoir, chérie, j'entends dormir tout aujourd'hui.
Compris, patron, je viens dans 2 heures.
Ouais, ça marche. Allô?
Allô, Nestor Burma?
Oui, pardon, monsieur.
Eh bien, sacré vieille quoi, vous avez mis dans le mille. Et à l'hôtel Victoria, à Perpignan. Une enveloppe. Ah, faux nom, naturellement. Dans l'enveloppe, le bulletin de consigne. Nous avons retiré la poupée de la gare où elle était en souffrance. La prime est à vous, Burma. Mais dites-moi, comment diable avez-vous fait pour leur nifler le coup du bulletin?
Je vous l'avais dit, monsieur le commissaire, je suis l'homme qui met le mystère knock-out.
Et maintenant, Germaine Beaumont vous parle du dernier livre qu'elle a lu pour vous.
Le pire des crimes par Ursula Curtis, publié chez Artem Fayard dans la collection Pierre Nord, repose, et son titre le suggère assez, sur un rapt d'enfant. Nous y voyons une jeune fille intelligente et sympathique, Lou Fabian, installée dans un ranch transformé en hôtel pour personnes désœuvrées, fortunées et en même temps ayant le goût de la vie au grand air avec terrain de golf, équitation, bungalow sous les arbres, etc. Bref, tout ce qui concourt au comble de l'agrément au sein de la plus rurale tranquillité. Mais rien n'est moins tranquille dans un roman policier que ce genre d'établissement. Nous apprenons dès le début que Lou Fabian est venue chercher l'oubli dans cet endroit en apparence privilégié parce qu'elle a été mêlée involontairement à une horrible histoire de vol d'enfants. Secrétaire d'une femme riche, mariée et qui écrit des romans, elle a été priée un jour de garder l'enfant de la maison, une petite fille encore au berceau, et l'enfant a été volé puis abandonné dans un marais où elle est morte de froid après que ses parents eussent payé une énorme rançon. Le coupable a été découvert, il a confessé son crime et il a été exécuté, mais on n'a pas retrouvé l'argent. Lou a été accusé de complicité pendant un temps très court, mais qui l'a marqué. Voilà que dans le ranch, on enlève un autre bébé. Et Lou se demande si cette répétition du même drame n'est pas calculée pour jeter sur elle une seconde fois la culpabilité du pire des crimes. Désespérément, elle cherche qui, parmi les hôtes du ranch, a pu être autrefois en relation avec les parents de l'autre bébé. Son instinct lui dit que derrière le criminel qui a avoué se trouvait quelqu'un d'autre, beaucoup plus dangereux, beaucoup plus organisé, beaucoup plus puissant. Oui, mais qui ? Ce qui ajoute à l'horreur de la situation, c'est qu'elle sent à ses côtés, dans la maison même, la présence de ce criminel résolu à ne reculer devant rien. Elle essaie donc de le gagner de vitesse, d'abord pour tenter de sauver le bébé, puis pour se sauver elle-même. Ursula Curtis a le sens du suspense et l'emploie avec beaucoup d'habileté. Il est donc difficile pour le lecteur d'abandonner le livre avant de l'avoir terminé. Je répète que Le pire des crimes par Ursula Curtis est publié chez Artem Fayard dans la collection Pierre Nord, l'aventure criminelle.
Roger Régent vous parle du dernier film qu'il a vu.
C'est d'un roman policier américain de Stanley Ellen que le jeune metteur en scène Claude Chabrol a tiré le sujet de son nouveau film à double tour. À vrai dire, il ne reste plus grand-chose du livre à l'écran, tout juste une situation et encore. Alors que l'histoire chez Stanley Ellen se déroule dans les plaines du Middle West, Chabrol a choisi le décor d'Aix-en-Provence et de la campagne aixoise pour situer son action. Le caractère policier de l'histoire a lui aussi à peu près complètement disparu. Bien sûr, le mystère du meurtre du jeune femme subsiste jusqu'au dernier moment, mais ce n'est pas là l'essentiel. L'auteur n'a rien fait pour rendre ce mystère angoissant et nous passionner à lui. Il avait d'autres ambitions. Celle, tout d'abord, de peindre à grands traits de couleurs vives une famille bourgeoise déchirée par la passion, la jalousie et la haine. Dans ce tableau, le metteur en scène et son dialoguiste, Paul Jégoff, ont eu la main un peu lourde. Certaines scènes, notamment entre Jacques Dacmin et Madeleine Robinson, vont assez loin dans l'horrible. Mais au-delà de ce côté provocateur, qui n'est pas malheureusement toujours aussi sincère qu'on le voudrait, Claude Chabrol montre qu'il est l'un des plus doués parmi la jeune génération de nos auteurs de films. Nous sommes donc dans une riche propriété, aux environs d'Aix-en-Provence. Dans ce manoir vivent Thérèse Marcoux, 45 ans environ, son mari Henri Marcoux, qui n'aime plus sa femme et le lui dit avec une rudesse et une muflerie d'ailleurs intolérable, enfin les deux enfants du ménage Marcoux, Richard, un adolescent instable et complexé, et Elisabeth, jolie fille amoureuse d'un certain Laszlo, jeune bohème, ivrogne, planche pourrie, qui n'est pas sans rappeler le héros, dont j'ai oublié le nom, du Repos du guerrier. Dans ce creuset, où bouillonnent toutes les haines et les passions refoulées ou étalées, surgit une fille d'une beauté resplendissante dont le père Marcoux va devenir amoureux fou. L'un de ses personnages est assassiné, je ne vous dirai ni lequel, ni qui a tué. D'ailleurs, une fois encore, ce n'est pas là l'essentiel du film. Pour plusieurs raisons, il faut le voir ce film, qui est intéressant et sans doute le meilleur de son auteur. Il y a d'abord l'interprétation admirable de Madeleine Robinson, la beauté et le charme vraiment merveilleux d'Antonella Lualdi, la composition pleine de relief et de truculence de Jean-Pierre Belmondo, enfin la qualité exceptionnelle de la couleur, employée ici comme élément dramatique. On avait rarement vu des jaunes et des bleus pareils au cinéma.
Les maîtres du mystère. Parmi les chefs-d'œuvre de la littérature policière, Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous ce soir Colique de plomb, roman de Léo Mallet, adapté pour le micro par Roger Richard, avec André Valmy dans le rôle de Nestor Burma, Bernadette Lange de Hélène et Guy Pierrot, Jacques Hilling, Gaëtan Jor, Raymond Pellissier, Jean Bollot, Henri Labussière, André Var, Jean-Pierre Lituac, Jean Mauvais. Chronique de Germaine Beaumont et Roger Régent. Bruitage Jean Berriac. Prise de son Jean Pantaloni et Monique Chevillon. Assistante Marie-Denise Vanda. Réalisation Pierre Billard.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France 2 Régionale le 5 janvier 1960. Vous pourrez la réécouter en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.